Depuis toujours, l'humain communique. Ça me paraît une évidence aujourd'hui, mais il y a 20 000 ans, c'en était une aussi. Que ce soit par les gestes, par la parole, on communique. Et ces moyens, ils ont évolué avec le temps. Aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes. On a inventé l'écriture, que ce soit dans les tablettes, dans les livres. Mais malgré ça, malgré les évolutions et des méthodes de plus en plus efficaces, un problème se pose toujours. Au-delà de la compréhension, comment on s'assure que l'information est transmise à l'exact? Comment s'assurer que ce que j'écris dans mon livre aujourd'hui, ce sera la même chose d'écrit dedans dans 100 ans? Et c'est dans ce contexte-là, aujourd'hui dans notre monde moderne, avec des communications ultra rapides, où l'erreur n'est pas permise, où des milliers de virements bancaires s'exécutent par seconde dans le monde, on se doit de conserver l'intégrité des échanges. Et pour ça, si l'informatique ne se trompe pas, elle ne peut pas se tromper. Les infrastructures, elles, sont imparfaites et sont prônes à des erreurs. Ainsi, on peut se demander pourquoi les communications modernes ne finissent pas en téléphone arabe? Pourquoi les informations ne se perdent pas et des erreurs se créent partout? Pour cela, nous allons voir d'abord qu'est-ce que la correction d'erreurs qui nous permet d'éviter ces problèmes. Ensuite, un exemple en particulier que vous ne savez pas mais vous le connaissez. Et enfin, quels sont les avantages et les inconvénients de cette méthode en particulier et qu'est-ce que ça nous dit sur l'ensemble des méthodes? Tout d'abord, qu'est-ce que la correction d'erreur? Eh bien, ce sont des algorithmes, c'est-à-dire des suites d'instructions qui s'exécutent sur un ordinateur, qui ont pour but de corriger les erreurs, mais seulement en deuxième temps, même si ça peut paraître assez contre-intuitif. Parce que tout d'abord, pour corriger une erreur, il faut la détecter. Et ces algorithmes sont des versions plus poussées d'algorithmes de détection d'erreurs, qui ensuite viennent corriger. Ce qui fait que parfois, en tant que détection, ces algorithmes sont bien plus puissants. De même, ces algorithmes viennent en complément du matériel. On ne compte pas seulement sur eux, on a aussi une correction de matériel qui existe. Le seul problème, c'est qu'elle est beaucoup plus coûteuse, beaucoup plus difficile à changer. Là où la correction d'erreur peut être intégrée à n'importe quelle application, à n'importe quel ordinateur et changée sur le tas. On a beaucoup d'exemples de cette correction, il en existe des dizaines de manières différentes, mais le principe reste le même, on utilise des outils mathématiques plus ou moins complexes dans le but de récupérer de l'information. On doit souvent envoyer de l'information supplémentaire pour ce faire, mais plus ou moins en quantité sur les algorithmes. Vous en connaissez forcément, parce qu'on a des exemples plus simples. La redondance, envoyer plusieurs fois l'information, à même des algorithmes comme ceux d'Apple, qui sont peu connus à la tendance d'Apple, mais qui sont très complexes. Bien sûr, il suffit pas d'aller là pour les trouver, on en trouve partout. Dans les simples communications, comme les virements bancaires, on en trouve. C'est là où c'est des situations critiques. Mais simplement, quand vous communiquez entre deux ordinateurs, quand vous allez sur Internet, vous allez en trouver. Pour continuer, on va prendre un exemple en particulier. Ce qu'on appelle la correction d'erreur Reed-Solomon. Vous ne le savez pas, mais vous la connaissez probablement. Bien sûr, ce que je vais vous présenter là, c'est seulement une implémentation, la mienne, qui se base sur des choses que je connais et ce n'est pas forcément la plus rapide. Il existe autant de manières de l'implémenter qu'il existe d'outils mathématiques. Cette méthode est utilisée notamment dans les CD ou il y a quelques années sur Internet. C'est une méthode qui consiste à utiliser les propriétés des polynômes, c'est-à-dire comme quoi il existe un seul polynôme passant par n points s'il est de degré n plus 1, combiné à un moyen de générer ces polynômes qu'on appelle les polynômes de Lagrange, mathématicien bien avant l'informatique, qui date de la Révolution française, connu notamment pour avoir aidé au système métrique. Avec ces deux, entre les polynômes et les polynômes de Lagrange, on va pouvoir générer des points précis. Et à partir de là, si on envoie plus d'informations à l'origine, on pourra déterminer les points qui nous manquent. Et aussi, dans certains cas, comme on veut envoyer moins d'informations, on va utiliser ce qu'on appelle les modulos. C'est un terme assez complexe, mais qui se résume assez simplement à une division euclidienne d'un nombre, où on va prendre son reste. On va choisir un modulo plus ou moins élevé suivant nos besoins et suivant la quantité d'informations qu'on peut se permettre de transmettre. Et on va l'appliquer au résultat qu'on a eu avec nos doponomes précédemment. Et ainsi, ces deux méthodes-là combinées ensemble vont nous permettre de nous donner ce qu'on appelle un code Reed-Solomon qui nous permettra de corriger les erreurs. C'est une implémentation relativement complexe, c'est pas la plus simple, mais c'est pas la plus dure non plus. Elle est dans le juste milieu, là où une personne normale peut avoir du mal à comprendre, mais un mathématicien aura peu de mal. C'est bien beau tout ça, mais à quoi ça nous sert finalement? Est-ce que ce ne serait pas mieux d'utiliser quelque chose de plus simple? Eh bien, la méthode qu'on vient de voir, c'est une méthode qui est assez efficace niveau calcul. Elle n'est pas trop gourmande, et elle nous permet de récupérer un certain nombre d'informations quand même. Après, elle n'est pas sans faille. Par exemple, sur les CD, tout le monde s'est déjà retrouvé avec un CD trop rayé qui ne marchait plus. Mais des petites rayures, le CD marchera encore. De plus, ça a toujours de l'erreur, parce que au bout d'un certain moment, on ne peut pas détecter s'il y a des erreurs. Si on ne peut pas détecter ces erreurs, on va le lire normalement. C'est pour ça qu'il existe des algorithmes qui permettent de vérifier à tout prix s'il y a des erreurs et refuser s'il ne peut pas les corriger. Mais ici, on ne saura pas. Malgré tout, ça marche assez bien, assez vite, et ça se comprend plutôt bien. Avec cet exemple-là, on peut comprendre que la plupart des algorithmes ont des avantages, des inconvénients. De la facilité de calcul à la difficulté, à la grande correction d'erreur à la petite, à la grande détection d'erreur à la petite, à des moyens de traiter les informations différentes. Chaque correction d'erreur a vraiment son objectif à lui. Et même entre les différentes manières de l'implémenter, ça peut changer. Ainsi, on peut conclure que les communications modernes ne finissent pas en téléphone arabe pour une raison assez simple et à ce qu'on aurait pu voir venir, parce qu'on a ce qu'on appelle de la correction d'erreur en algorithme, que ce soit matériel ou informatique, avec des exemples comme le code de Reed-Solomon, mais pas seulement, parce que chacune présente ses avantages et ses inconvénients. Et c'est ainsi, avec toutes ces méthodes différentes, avec chacun leur objectif, chacun leur avantage et chacun leurs défauts, qu'on arrive à avoir un monde où les communications arrivent à partir aussi vite, avec aussi peu d'erreurs. C'est des algorithmes qui existent comme ça, mais il y a aussi plein d'autres formes d'algorithmes qui existent, comme les algorithmes de détection d'erreurs, qui ont des objectifs bien à eux, qui peuvent être poussés bien plus loin que ce qui peut être fait dans la correction d'erreurs. Même si ceux de correction d'erreur sont très efficaces, ceux de détection peuvent aller beaucoup plus loin et avoir d'autres objectifs, mais qui sont tout aussi utiles.